Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement a approuvé le projet de budget de l'État pour 2012 avec un déficit réduit à 105 milliards de couronnes. Le Sénat a rejeté le projet de renforcement de la garde alternée pour les enfants de parents divorcés. Et puis la République tchèque et l'île de Man ont signé un accord sur l'échange de données fiscales. Le gouvernement a donc approuvé ce mercredi en Conseil des ministres le projet de budget de l'État pour l'année prochaine. Ce projet prévoit un déficit de 105 milliards de couronnes, soit environ 4,2 milliards d'euros, soit 30 milliards de couronnes de moins que celui prévu cette année. Pour cela, deux taux de TVA à 20 et 14% devraient être appliqués en 2012 avant de passer à un taux unique à 17,5% en 2013. Les affaires publiques, le plus petit des trois partis composant la coalition gouvernementale, sont cependant pour l'heure opposés à ce projet de budget. Récemment, le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, a présenté un projet prévoyant une augmentation du taux de TVA à 19% de l'année prochaine, et ce, afin de réduire le déficit des finances publiques de 10 milliards de couronnes supplémentaires. Le Sénat a rejeté ce mercredi le projet des députés selon lequel les juges devraient placer plus souvent les enfants de parents divorcés en garde alternée. Le texte va donc revenir à la chambre basse du Parlement. En juin dernier, le projet avait été approuvé par les députés dans le cadre de l'amendement à la loi sur la famille. Il doit permettre de modifier le fait que dans 90% des cas, à l'heure actuelle, l'enfant est confié à la mère par les juges. Selon les statistiques, la garde alternée partagée n'est retenue que dans 4% des cas, alors que les juges tchèques disposent de cette possibilité depuis 1998. La République tchèque et l'île de Man ont signé ce mercredi un accord portant sur l'échange d'informations fiscales afin de lutter plus efficacement contre les fraudes. L'administration tchèque aura désormais notamment la possibilité de vérifier si les entreprises tchèques paient bien leurs impôts sur leurs revenus et leurs biens sur l'île de Man, considérée comme un paradis fiscal. Cet accord entrera en vigueur après son approbation par le Parlement et sa signature par le président de la République. Le ministère des Finances a indiqué qu'il s'agissait du troisième accord du genre signé par la République tchèque. Le Sénat a toujours lui adopté ce mercredi le projet de loi relatif à la résistance contre le communisme. Selon ce texte, les anciens résistants devraient recevoir 100 000 couronnes, soit environ 4 000 euros, les veufs ou veuves la moitié de cette somme, et se verraient attribuer le statut d'ancien combattant, même sans avoir jamais pris les armes. Ce statut leur permettrait de bénéficier de certains avantages, notamment dans le domaine de la santé. Par ailleurs, dans le cas où des anciens résistants recevraient une pension de retraite inférieure au montant moyen, le montant de leur pension sera mise à niveau de la moyenne. La loi, qui doit encore être signée par le président de la République, devrait entrer en vigueur symboliquement le 17 novembre prochain, célébrée en République tchèque comme journée de lutte pour la liberté et la démocratie. L'équipe tchèque de reconstruction provinciale qui opère en Afghanistan dans la province de Logar a achevé son projet de soutien à l'armée locale en réparant une partie de la base militaire située à Altimur. Un réfectoire, une cuisine et une salle de soins ont notamment été construits. Environ 700 personnes travaillent à la base d'Altimur, composée d'environ 200 soldats et d'une dizaine de civils. L'équipe tchèque de reconstruction provinciale, dont la mission s'inscrit dans le cadre des forces de l'OTAN, opère dans la province de Logar, dans l'est de l'Afghanistan, depuis mars 2008. On passe au sport et au football. Déjà large vainqueur 4-0 à l'aller en Arménie la semaine dernière. Le Viktoria Plzeň a confirmé sa qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions en battant mardi à domicile le FC Pionik Erevan, de nouveau par 4 buts d'écart sur le score de 5-1. Au troisième tour, le Viktoria Plzeň sera opposé à un adversaire d'un autre calibre. Le champion de République tchèque en titre affrontera en effet les Norvégiens de Rosenborg. Le match aller sera disputé en Norvège mardi prochain. On termine avec un mot de météo. Comme mercredi, le temps reste humide et pluvieux sur l'ensemble du territoire. Jeudi, jour de la fête des Vitiéslaves, aucune évolution notable n'est attendue pour la fin de la semaine. Les températures, quant à elles, sont inférieures aux normales saisonnières et varient entre 15 et 20 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie encore quelques instants pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. On parlera de la réforme du système des retraites en République tchèque qui, dans le projet de loi du gouvernement adopté en première lecture au Parlement, remanie en profondeur les conditions d'accès à celle-ci, tout comme les autres réformes du gouvernement. Celle-ci est, vous le verrez, très impopulaire. Le 22 juillet, le réalisateur Emir Kusturica se produira avec son groupe, le No Smoking Orchestra, près du Pont Charles à Prague. Un spectacle dans le cadre d'un festival plus large qui comprend aussi une exposition d'un photographe d'origine serbe. La rubrique Histoire reviendra sur la bataille de Lipané en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. La réforme des fonds de pension est l'une des priorités de l'actuelle coalition gouvernementale, laquelle rassemble trois partis de droite, le parti Affaires publiques, Top 09, ainsi que le parti civique démocrate. Ce projet de privatisation partielle du système des retraites n'en finit pas de faire parler de lui. La semaine dernière, les oppositions sociales-démocrates et communistes ont ainsi résumé l'ensemble des critiques à l'encontre du texte de loi lors d'une longue et mouvementée séance parlementaire qui a finalement vu les députés adopter le texte en première lecture. Pour autant, la réforme reste impopulaire, je vous le disais, et le gouvernement tente donc de communiquer une image plus positive de cette mesure qu'elle présente comme incontournable et a notamment récemment discuté un amendement sur les pensions de métiers à risque. Pierre Maignan.
La réforme des pensions de retraite s'apparente à une privatisation du système, puisqu'elle permet notamment la création de fonds de pension privés. Elle repousse également progressivement l'âge du départ à la retraite à taux plein. Ainsi, les personnes nées en 2001 devraient cotiser jusqu'à leur 71e anniversaire pour enfin pouvoir bénéficier de la totalité de leur pension de retraite. Il va sans dire que le projet est peu populaire. La mobilisation historique de nombreux Tchèques dans les quelques grèves et manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois l'illustre assez bien. Certains commentateurs ont même comparé le comportement du gouvernement actuel à celui de la Britannique Margaret Thatcher, connue pour ses mesures très libérales et son refus du dialogue. Aussi, lors de la séance parlementaire du 13 juillet dernier, le débat a été très âpre. La réforme, finalement adoptée par la Chambre des députés, introduit un second pilier au système par répartition, permettant aux individus de cotiser pour leur retraite auprès de sociétés privées. Pour Bohumil Sobotka, le chef de l'opposition social-démocrate, chez SSD, cette réforme est injuste et va constituer un nouveau poids à porter pour les citoyens tchèques.
Malheureusement, ce sont chacun des 10 millions de citoyens tchèques qui paieront ce second pilier par l'intermédiaire de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des médicaments, car la TVA augmente, les impôts augmentent.
Il a ajouté que si, à l'occasion des prochaines élections législatives, son parti était en mesure de gouverner, il reviendrait sur cette réforme, une menace qui n'a pas inquiété Petr Nečas, le chef du gouvernement.
C'est une chose que de faire des promesses à des fins électoralistes, ça n'est une autre que de réaliser ces réformes dans des conditions économiques réelles.
Pour les communistes et les sociaux-démocrates, cette mesure va surtout contribuer à augmenter les inégalités entre ceux qui auront les moyens de cotiser sur des fonds de pension privés afin d'agrémenter leur retraite et les autres qui n'auront d'autre choix que de profiter d'une pension de retraite à minima. Une critique balayée du revers de la main par Miroslav Kalousek, le ministre des Finances, qui agite une nouvelle fois le chiffon rouge de la Grèce.
Les pays qui se reposent à 100% sur un système de retraite entièrement étatique sont des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne.
Des affirmations à nuancer puisque des systèmes de pension mixtes avec un premier pilier de système par répartition et un second avec des fonds de pension privés existent en Italie depuis 1997 et en Espagne depuis 1987. Pour autant, la réforme devrait désormais être discutée au Sénat et il est probable que certains amendements viendront en modifier la substance. Ainsi, les représentants des syndicats et le porte-parole du ministère du Travail et des Affaires sociales ont déjà confirmé qu'un amendement avait été discuté lors d'une réunion tripartite incluant syndicats, employeurs et représentants du gouvernement. Les salariés exerçant des métiers à risque ou pénibles pourraient bénéficier de leur pension de retraite 5 ans avant le nouvel âge légal que risque d'entériner la loi sur les retraites actuellement à l'étude. Cependant, la liste des métiers concernés n'a pas encore été établie. Malgré cette légère avancée, la politique du gouvernement de Petr Nečas de réduction des déficits publics à travers cette réforme, celle du système de santé ou encore l'augmentation de la TVA, reste très impopulaire, comme le commente Jan Herzmann, le directeur de l'agence Factum Invenio, qui se présente comme sociologue.
L'opinion publique dit généralement que le gouvernement est un mauvais gouvernement, et ce à peu près pour tous les gouvernements par principe. En second lieu, il ne faut pas omettre le fait que la confiance accordée par l'opinion publique à ce gouvernement est, selon l'Eurobaromètre, au plus bas depuis l'année 1989. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. L'opinion publique a le sentiment que le gouvernement ne fait pas forcément très bien ce qu'il doit faire.
Les difficultés du gouvernement vis-à-vis de cette réforme des pensions de retraite pourraient s'aggraver avec la récente décision de la plus haute juridiction administrative slovaque. Celle-ci a en effet rendu un verdict qui risque d'obliger la République tchèque à verser des milliards de couronnes de pensions de retraite à des citoyens slovaques qui ont cotisé au système tchécoslovaque avant la séparation des deux pays. Les pensions slovaques étant inférieures aux pensions tchèques, la justice slovaque s'est appuyée sur le cas particulier de Marie Lentová, qui avait obtenu gain de cause auprès de la Cour de justice de l'Union européenne dans un jugement rendu en 2009.
Jusqu'au 30 juillet, la Galerie des Critiques au Palais Adria à Prague présente les photographies parisiennes du photographe français d'origine serbe Milomir Kovacevic. L'exposition se déroule dans le cadre du festival intitulé « Songe d'une nuit d'été » qui propose également vendredi un grand concert du réalisateur Emir Kusturica sur les bords de la Vltava. Milomir Kovacevic évoque ses photos de Paris.
C'est une expo, on appelle Paris la nuit, on peut appeler Paris illuminé. Ou... En arrivant de Sarajevo 95 à Paris, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Comme je connaissais un petit peu, on a appris à l'école l'histoire de Paris, de la France, de la culture, tout ça. Et on a un petit peu perdu presque tout dans la guerre et je suis venu à Paris sans connaître personne, pas d'argent, pas de... rien du tout, juste avec mon appareil photo.
Et donc, alors, vous avez parcouru la ville de Paris avec votre appareil?
Ah oui, ça s'est passé comme ça, au début, juste, et j'ai commencé de faire les photos, et c'était plutôt la nuit.
Pourquoi la nuit?
C'est vraiment parce que Paris, c'est vraiment une ville de lumière, de tout ça, c'est... quelque chose de spécial, à part, qu'est-ce que j'ai pas... Peut-être parce que je suis sorti de Sarajevo où il n'y a eu pas de lumière, c'était vraiment sombre. C'est pas que de la guerre, pas d'électricité, pas d'eau, rien de tout. Et je suis entré à Paris et la nuit, c'était vraiment magique avec toutes les lumières, tout ça. Et c'était vraiment tellement inspiratif, tellement... Visuellement, c'était un choc.
Vous vous rappelez que justement, vous venez de Sarajevo, vous avez notamment photographié la ville de Sarajevo pendant le siège, et puis par la suite également. Comment est-ce qu'on aborde finalement deux villes aussi finalement différentes et au vécu aussi différent?
Moi, j'ai photographié Sarajevo bien avant. La guerre, tout ça, c'est juste un morceau de notre histoire, mais Paris, c'est vraiment, c'est devenu aussi ma vie maintenant. Moi, j'ai fait toujours photos autour de moi.
D'ailleurs, il y a une photo, un autoportrait aussi.
Ouais, il y a souvent dans toutes mes séries, il y a toujours quelque chose de moi physiquement, mais dans toutes les photos aussi de Paris la nuit, il y a aussi certaines traces de la guerre ou on voit dans certaines photos, même si c'est un petit peu discret, il faut vraiment savoir lire. Et ici, il n'y a que 50 photos. Et l'histoire avec Paris, ça dure déjà 16 ans. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos.
Est-ce que vous êtes venu avec votre appareil photo ici pour photographier Prague?
Si, si, j'ai mon appareil toujours avec moi. Je ne parle pas pour Prague, je parle beaucoup de temps pour photographier, mais j'aime bien venir. J'étais souvent. Je connais super bien Prague, j'adore, c'est vraiment aussi une autre ville après Paris où j'ai passé plus de temps. On ne peut pas dire que c'est rien à voir avec Paris au niveau de lumière, tout ça, mais il y a une autre chose que c'est vraiment, oui, Prague est aussi une très belle ville, il y a une beauté vraiment, et aussi une âme un petit peu slave, un petit peu... Europe centrale, moi je peux reconnaître ça et j'aime bien.
Une dernière question. J'ai lu que vous aviez un surnom, qu'on vous disait Strašný. Strašný en tchèque, ça se dit aussi, c'est-à-dire le terrible. Pourquoi ce surnom?
À l'époque, il y a trentaine d'années, quand je faisais les photos dans, je sais pas comment on appelle ici, où les gens, ils sont travaillés volontairement pour construire les... C'était l'époque de socialisme.
Une brigade.
Une brigade. Moi, j'étais photographe. Et comme je photographiais un petit peu à les gens, ou dans certaines situations, pas souvent. Mais j'ai jamais montré les photos. Les derniers jours, j'ai montré, ils ont regardé les photos. Ah, c'est terrible ça. Et comme ça, je restais toujours terrible.
Vous écoutez un extrait de la musique d'Emir Kusturica qui se produira à Prague le 22 juillet dans le cadre du festival Songe du Nuit d'été. On passe maintenant à la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, dans la rubrique Histoire, nous parlons avec Yarka Gisubelova de la bataille de Lepané. Le 6 juillet était célébrée en République tchèque la fête nationale commémorant le martyr de Jan Hus, prêtre réformateur mort comme hérétique sur le bûcher de Constance il y a 596 ans de cela, le 6 juillet 1415. La révolution hussite qui a éclaté en Bohême pour propager les idéaux de Jan Hus a duré 15 ans, depuis 1419, date de la première défenestration pragoise, jusqu'à la défaite des hussites radicaux à la bataille de Lepané le 30 mai 1415. 434. C'est à cette bataille perçue comme un tournant de l'histoire tchèque que Yarka Gisubelova a consacré cette nouvelle page d'histoire.
Chapitre de l'histoire.
Après la mort de Jan Hus, une opposition se crée en Bohême contre l'empereur Sigismond de Luxembourg, frère de Charles IV. En 1419, des conseillers sont jetés par les fenêtres de l'hôtel de ville de la nouvelle ville pragoise. En juillet 1420, les troupes hussites remportent leur première victoire sur les croisés à la colline de Vítkov et font de Prague un bastion de leur foi en prêchant l'égalité de tous devant Dieu, comme nous le rappelle l'écrivain metteur en scène Martin Drahovzal, qui nous a servi de guide à Lepané.
Le mouvement des Calixtins tire ses origines des tentatives de réformer l'Église qui font leur apparition dès la fin du XIVe siècle lorsque les réformateurs commencent à formuler leurs revendications, à savoir que l'Église devrait être plus près des hommes, renoncer aux richesses et vivre dans la pauvreté évangélique. Les héritiers des idéaux de Jan Hus, disent les Calixtins, ou encore les Utraquistes, selon l'expression latine « communion sub utraque », communion sous les deux espèces. Si le calice était un privilège des prêtres, les Calixtins voulaient le calice et le pain pour tout le monde. Pour eux, les prêtres n'étaient pas plus égaux en droit devant Dieu que les autres, et c'est ainsi que le calice devient un symbole des hussites.
C'est en 1420 que les Calixtins formulent leurs revendications dans les quatre articles de Prague. Communion sous les deux formes, punition du péché mortel sans égard de la personne, confiscation des biens terrestres à l'Église et liberté de prêcher la parole de Dieu. De Tabor, ville fondée dans le sud de la Bohême, destinée à abriter une communauté vivant selon les règles de la pauvreté évangélique, l'utraquisme se propage à Prague et plus loin encore dans l'est du pays, une cité fortifiée édifiée sur le mont d'Orep. Les Calixtins sortent invaincus des six croisades qui sont organisées par l'empereur contre ses opposants. La bataille de Lepané, localité à 40 km à l'est de Prague, marque leur défaite. On écoute l'historien Petr Čornej.
Lipanská bitva je
La bataille de Lipany est un tournant dans la révolution hussite. D'une part, elle oppose les hussites radicaux, c'est-à-dire les taborites de la ville de Tabor, et les orphelins non donnés à une aile de radicaux après la mort du leader militaire légendaire Jan Žižka. Les hussites radicaux peuvent s'appuyer sur des troupes de professionnels recrutés parmi une caste de militaires entièrement voués au combat. De l'autre côté, il y a les hussites modérés qui souhaitent parvenir à un accord avec le concile de Bâle et le roi Sigismond de Luxembourg. Ces hussites modérés sont alliés, pour l'occasion, aux catholiques, en une coalition de Bohème, Panska Jednota. La bataille de Lipany, qui voit la victoire de la coalition des hussites modérés sur les radicaux, décidera de l'évolution future du pays. La voie s'ouvre d'une part à un accord avec le concile de Bâle, un compromis théologique dénommé Compactata de Bâle est trouvé pour maintenir les hussites schismatiques au sein de l'Église catholique. De l'autre, on parvient à une conciliation avec Sigismond de Luxembourg, roi couronné en 1420, non reconnu jusqu'alors par les hussites, lequel est désormais obligé de reconnaître l'état des choses créé avec la révolution hussite afin de pouvoir monter sur le trône en août 1436.
Avec notre guide à Lipany, Martin Drahovzal, nous montons au sommet de la colline Lipská Hora, située non loin du hameau de Lipany et marquée par un monument commémoratif. C'est là, le dimanche 30 mai 1434, que se rencontrent les armées des radicaux placées sous le commandement de Prokop Lchov, auxquelles se sont joints les orphelins tchèques de Jan Čapek de San. Les radicaux font face aux troupes des hussites modérés alliées aux catholiques sous les ordres de Bořek de Miletinek, un compagnon d'armes de Jan Žižka. Un paradoxe qui n'est pas le seul dans cette bataille et dont le caractère fatidique tient au fait que les Tchèques y ont été battus par les Tchèques et ceux qui avaient lutté pour le calice se sont placés cette fois contre lui, observe notre guide.
Le 30 mai, les troupes ouvrent la bataille. Prokop est le premier à s'attaquer. C'est un commandant expérimentaire invaincu qui n'a perdu aucun combat et qui a choisi une position avantageuse sur une colline au sud-ouest de Lipany. La tactique des deux armées opposées est la même. Les deux utilisent une forteresse de wagons permettant de s'abriter derrière des chariots de ferme transformés en chariot de guerre. Appelé Wagenburg, il s'agit d'une grande innovation stratégique mise en place par le chef du site Jan Žižka. La fameuse forteresse de wagons enchaînés constituait un obstacle insurmontable.
Au départ, les chances des radicaux semblaient plus élevées. Le feu est ouvert à une heure. Les modérés ont recours à une ruse, feignant une attaque sans toutefois trop s'approcher de la portée de l'artillerie taborite. Ils reculent en direction de collines. Cette apparente victoire provoque l'euphorie dans le camp des radicaux. L'ordre est ainsi donné d'ouvrir le Wagenburg pour permettre à la cavalerie de poursuivre les fuyards. Or, quand les radicaux sont assez loin de la forteresse, ils se voient d'un attaqué par les armées catholico-utraquistes modérées, jusqu'alors cachées dans une forêt voisine. Prokop Lchov, leader des radicaux, est tué. Voyant la bataille perdue, le commandant des orphelins, Jan Čapek de San, décide d'épargner ses hommes et de fuir vers Kolín, ce qui lui vaudra d'être accusé de trahison. Les conséquences de la défaite à Lipany sont fatales, rappelle Martin Drahovzal.
Padlo tady 2000 sirotků.
2000 orphelins sur les quelque 12 000 présents ont trouvé la mort. Le reste a pris la fuite. 700 guerriers le plus radicaux ont été brûlés vifs dans une grange de Lipany sur ordre de Putašvihovski. Le lendemain, la coalition catholico-utraquiste a promis à Jan Čapek de San d'être libre de partir de Kolín où il avait trouvé refuge, à condition qu'il ouvre les portes de la ville. Le lendemain, c'est chose faite, l'explication est simple. La bataille terminée, les seigneurs se comportent de nouveau en seigneurs. C'était une pratique courante à l'époque, un gentleman's agreement. Prokop Lchov est mort sur le champ de bataille, mais on ignore où il a été inhumé. Selon une légende locale, il a pu se sauver et serait mort plus tard en secret dans une prison. La tombe de Prokop Lchov est recherchée dans cette région aujourd'hui encore.
Hrob Prokopa Holého se tady v tom kraji svým způsobem hledá dodnes.
Mais la défaite à la bataille de Lipany est d'abord et avant tout morale. Les Hussites ne sont plus invaincus. Une partie des guerriers ultra-radicaux partent en exil et embrassent une carrière de mercenaires. Certains, comme Jan Rohatsch de Dubé, continuent encore le combat au château de Sion, près de Kutná Hora, mais pas pour longtemps. En 1437, Jan Rohatsch est pendu sur la place de la vieille ville de Prague. Lipany marque la fin de la révolution hussite. Certains l'aperçoivent comme un moment clé de l'histoire tchèque. Son importance est encore renforcée au cours des siècles suivant. C'est le cas notamment de la période de la Renaissance nationale. L'érection d'un monument sur les lieux de la bataille en 1881 s'inscrit dans le cadre de la perception de Lipany comme un symbole d'émancipation nationale face à l'élément allemand, raconte Martin Drahovzal.
Nous stojíme u pomníku, který zde byl v 19. století.
Nous voilà devant le monument commémoratif érigé en haut de Lipská hora au XIXe siècle pour symboliser la résistance du peuple tchèque. Dans le passé, le monument faisait l'objet d'une sorte de pèlerinage le jour de l'anniversaire de la bataille. Au début du XXe siècle encore, les gens s'y rassemblaient pour écouter des discours patriotiques. Souvent, la police est intervenue contre des participants au rassemblement en les escortant à Český Brod où ils subissaient des interrogatoires. C'est un lieu emblématique, une sorte de symbole national.
Les guerres hussites en général et la bataille de Lipany en particulier ont servi de sujet favori aux artistes nationalistes comme le peintre Ludek Marolt. Son célèbre tableau panoramique intitulé « La bataille de Lipany » est à voir au parc des expositions à Prague.
Voilà, c'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Vous le savez, toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver en podcast ou bien également sous forme d'article sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.